Donc, pour cette nouvelle rentrée, on va commencer Bezrat Hashem, deuxième chapitre de Sha'ar Eichud Ve'emouna. On va faire un petit rappel rapide du sujet, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on n'était pas dedans. Dans le premier chapitre de Sha'ar Eichud Ve'emouna, on a basé notre explication sur un verset très connu. Un verset qu'on va répéter des centaines de fois les jours qui suivent. Le olam Adonai dvaracha nitzav bashamayim. Ça vous dit quelque chose? Bon. Qu'est-ce que dit ce verset? Ce verset, il dit que la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux. Comment on a expliqué ce verset? Que la parole que Dieu a employée le premier jour de la création pour créer chaque détail de notre monde, et cette même parole, et cette même énergie qui continue à vivifier cet objet jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait pas mal de calculs, on avait expliqué que, pourtant, dans la paracha Bereshit, la section qui parle de la création du monde est très courte. Une page et demie dans le Sefer Torah. Donc comment on peut dire que tout ce qui existe dans le monde est écrit dans Bereshit? On avait expliqué qu'il y a des notions de tsirufim, de gimatria, de combinaison, on a fait toutes sortes de calculs. En tout cas, ce qui est clair, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, et c'est important à comprendre ça pour aujourd'hui, bonsoir, c'est que tout ce qui vit autour de nous, y compris nous-mêmes, est vivifié à chaque seconde par Akadosh Baruch Hu. Voilà. Voilà où on va en arriver. Et par quelle parole d'Akadosh Baruch Hu? Par la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde le premier jour de la création. C'est cette parole qui continue à nous vivifier. Ok. Maintenant, chapitre 2, je pense que c'est un chapitre très important, c'est peut-être même le chapitre le plus important de Sha'ar Eichud Ve'emouna, et peut-être même le chapitre le plus important de Netanya. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans ce chapitre 2, on va poser une question concrète. Pourquoi, finalement, on pourrait pas dire que Dieu a créé le monde et qu'il s'est retiré, qu'il laisse le monde tourner? On ne va pas faire les athées, les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Non, on ne va pas dire que Dieu n'existe pas. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui pensent Dieu existe, il a créé le monde. S'il veut, il peut le détruire, quand il veut. Bon. Mais on n'est pas obligé de dire que chaque seconde, chaque détail, chaque feuille qui bouge, chaque coup de vent, chaque chose, chaque parcelle, chaque papier, chaque... On n'est pas obligé de dire que tout ça, maintenant, il y a Dieu qui est en train de le vivifier maintenant.
Il va s'ennuyer sans doute.
Ça, c'est pas une réponse. Hein. Après, il va s'ennuyer.
Et avant même, avec qui il parle?
Pourquoi vous croyez qu'il s'ennuyait avant?
C'est une question.
Non, attention, on avait dit qu'on ne peut pas dire ça. Ah. Parce que si vous dites ça, ça veut dire qu'il manquait quelque chose à Dieu. Or, Dieu, il ne manque rien.
Mais s'il a créé, c'est qu'il a raison.
Pas du tout. Ça, c'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. Il ne lui manque rien. Dieu, il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de la terre, il n'a besoin de rien du tout. Il est la terre, c'est lui-même la terre. Donc finalement, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi on pourrait pas dire que, comme dit la bonne dans les prophètes, Azav Hashem et Taaretz, Dieu a abandonné la terre. Dieu a abandonné la terre. Qu'est-ce qui nous empêche de dire ça? Pourquoi on ne dirait pas ça? Pourquoi un des fondements de notre foi, c'est de dire que non seulement que Dieu, on croit qu'il y a un Dieu, mais on croit que ce Dieu, il vivifie chaque parcelle du monde à chaque instant.
Quand tu dis vivifier, ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a pas cet apport,
voilà,
donc
ça s'arrête. Fondre, exactement. C'est exactement.
Où c'est le carburant du monde.
Razak, donc c'est un peu la direction. On va aller un peu plus loin, mais c'est un peu la direction qu'on va prendre.
Ouais,
essayer d'expliquer, ça veut dire. En vérité, on n'a peut-être pas les bonnes définitions, parce que le problème qu'on a, c'est que nous, dans notre tête, c'est quoi un créateur? En vérité, le créateur qu'on connaît, c'est une personne qui fait ça. Je vous donne un exemple. Imaginez cette bouteille. Bon, cette bouteille, elle est banale. Imaginez que cette bouteille, elle a été façonnée par un grand artiste. Donnez-moi, je connais pas les artistes qui font des bouteilles. Un artiste, hein, un grand artiste. Hein? Stark, Philippe Stark. D'accord?
Très bien.
D'accord? Cette bouteille, elle a été designée par Philippe Stark. Bon, en personne. Peut-être la bouteille va valoir très cher, parce qu'effectivement, il a designé la bouteille. C'est une belle bouteille. Très bien. Mais Philippe Stark peut mourir. Je lui souhaite, je sais pas, il a encore envie. D'accord, je lui souhaite 120 ans. D'accord. Ah, je sais pas quelle vie il faut lui souhaiter. Bon, peu importe. En tout cas, Philippe Stark peut mourir.
La bouteille
sera là. Pourquoi? Parce que, bonsoir. Parce que Stark n'a pas créé la bouteille. Il n'a pas créé la bouteille. Il a pris du plastique. D'accord ? Le plastique est du pétrole, etc. Et il en a fait une forme, donc il a façonné la bouteille.
Yesh, mais yesh.
Eh oui. Et donc le problème qu'il y a, c'est que nous, on a envie d'appliquer les mêmes règles par rapport à Kadosh Baruch Hu. On a envie d'appliquer les mêmes règles. Et dire, bah pareil, à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, après il peut se retirer, il peut revenir quand il veut, et ça tourne. La nature, ça tourne. Et là, l'Admor HaZaken va utiliser des mots très durs. Il va appeler les gens qui parlent comme ça de renégat, d'imbécile, tout ce que tu veux, pour expliquer à quel point c'est une erreur fondamentale. Mais c'est important de préciser ça, parce qu'apparemment, à l'époque de l'Admor HaZaken, les hérétiques pensaient comme ça. Tous les hérétiques pensaient comme ça. C'est pas qu'à l'époque de l'Admor HaZaken, aujourd'hui encore des gens qui pensent comme ça. Il y a plein de gens qui pensent comme ça aujourd'hui. Je peux vous dire, je vais aller même plus loin que ça. À mon avis, aujourd'hui, la majorité des gens qui croient en Dieu pensent comme ça. Même les gens, les croyants, d'accord? Vous avez des, bon, pas seulement des juifs, des catholiques, etc., des gens qui vous disent qu'ils croient en Dieu. Je ne sais pas s'ils croient forcément que Dieu contrôle chaque seconde de leur vie. Ils croient en Dieu, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un grand patron.
Il contrôle chaque seconde, c'est-à-dire où il est,
lui. Alors voilà, non, mais ça c'est très compliqué. C'est-à-dire, comment on simplifie les choses? On a dit, il a créé le monde, ça tourne, quand il veut, il revient, il fait des modifications, ou bien il détruit.
Ça, il a créé les règles du monde.
Mais là, la Torah te dit non. La Torah te dit, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement qu'il a créé les règles du jeu. C'est pas seulement qu'il peut les changer quand il veut. C'est pas seulement qu'il a créé un monde qui s'arrête jamais, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal le cri qui tombe toujours. Non. Il est là à chaque seconde, à chaque instant. Alors ça, il faut expliquer comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, avant de commencer le chapitre 2, on va donner quelques exemples.
Par exemple, dans l'exemple qu'il a modifié la nature pour faire
d'accord.
apparaître les choses.
Oui, mais ça, encore une fois, c'est des modifications. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que j'ai devant moi une bouteille d'eau et je dis que Dieu a fait un miracle, il a transformé l'eau en sang. Il n'a pas créé le sang.
Non. Oui.
Il y avait de l'eau, il en a fait du sang. Bon, j'aurais pu dire c'est comme quelqu'un, comme un chimiste, il aurait pu faire ça. Il a devant lui de l'eau, il met dedans une potion et c'est fini, c'est devenu du sang. D'accord? Sauf que pour Dieu, c'est un miracle, etc., ce que tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas créé le sang. Là, on est en train de te dire que chaque seconde, Dieu est en train de créer le monde. C'est même pas maintenir, il crée le monde à chaque seconde. Et c'est ça le pasouk, le'olam Adonai varcha nitzav vashamayim. Ta parole, Dieu, est toujours présente dans les cieux. C'est-à-dire que la même parole qui a dit, voilà, commence avec le petit, la paracha Bereshit, d'accord? Dieu dit que la lumière soit, jusqu'à maintenant, cette énergie continue. Et si l'énergie de Yé Or s'arrêtait une seule seconde,
il n'y a plus lumière.
Mais dans la création, c'est pas dit comme ça, c'est dit il marque un temps, il dit le sixième jour, septième jour.
Ah, c'est ça le chidouche.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que.
C'est ce qui nous apprend le roi David dans Tehilim.
Voilà.
Que lorsqu'il te dit que la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux, c'est-à-dire, il ne croit pas que Dieu dit bon, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. C'est dit non.
Sinon,
jour 1,
c'est
le jour où ça a commencé. Jour 2, c'est le jour où ça a commencé. Jour 3, c'est le jour, mais après, c'est permanent. Et c'est pas compliqué. Si la parole s'arrête, le phénomène s'arrête. Aussi simple que ça. Pourquoi? Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve ça?
Ah.
Qu'est-ce qui nous prouve? Après, on pourrait pas dire, voilà, comme j'ai devant moi une chaise là, une belle chaise qui a été faite. Il y a un artisan qui l'a fait.
Elle a créé,
elle reste là, elle bouge pas.
Ouais.
Elle ne dépend pas de celui qui l'a façonné. Pourquoi on est obligé de faire dépendre la création du créateur? Pourquoi? On dit que c'est comme ça, je crois, mais pourquoi c'est comme ça? Alors je disais que pour répondre à cette question, on va donner quelques exemples de la vie de tous les jours. On va donner trois exemples. Et on va essayer de comprendre la création du monde ressemble à quel exemple. Et avec ça, après, on va se lancer directement dans le chapitre. Ça va aller vite parce qu'une fois qu'on a compris ça, ça ira vite. On va prendre trois exemples. D'abord, je vous donne les exemples, après je vais les expliquer. Premier exemple, un artisan qui fait un ustensile. Deuxième exemple, le rayon qui provient du soleil. Troisième exemple, d'accord, la traversée de la mer Rouge. Trois exemples. Non, évidemment, quand je vous l'ai dit, je dis, mais quel rapport? Quel rapport entre un artisan qui façonne un ustensile,
un rayon de soleil,
et la traversée de la mer? Vous allez voir qu'il y a un grand rapport. Et qu'en fait, les trois exemples vont être trois façons différentes de comprendre la relation qu'il y a entre une créature et un créateur. Et on va essayer de se situer dans tout ça. Alors, on va commencer par le premier exemple. Le premier exemple, je l'ai déjà dit en partie. C'est un artisan qui façonne un ustensile. Alors, face à l'industrie, donc qu'est-ce qu'a fait l'artisan finalement? On va prendre un exemple, un artisan qui a fait un verre, un joli verre de Kiddush. Qu'est-ce qu'a fait l'artisan Michel?
Il a fondu les pièces.
Donc il a pris de l'argent, il a fait fondre de l'argent. D'accord, donc quel est le Kiddush ici? Quel est le Kiddush? Quelle est la nouveauté? C'est-à-dire
qu'il y a toujours...
Pour comprendre la nouveauté, il faut voir avant et après. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on avait avant? Avant qu'il fasse le beau verre de Kiddush, on avait de l'argent. On avait un bloc d'argent, l'argent vide. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire que dans ce bloc d'argent, il y avait déjà le verre de Kiddush. Il était là.
Il ne l'a pas créé.
Donc il ne l'a pas créé. Il n'y a pas de Beria.
Ah oui, il n'a pas créé la matière. Il n'a pas créé la matière.
Il n'a pas créé la matière. Il y a Yetzira. Il a formé. Mais il n'a pas créé.
D'accord.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans le bloc d'argent que tu avais, le verre était déjà là. Dans l'absolu, il était déjà là.
Oui, donc il est pas créateur, il façonne.
Mais exactement. Donc qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui te manquait? Il te manquait. Il fallait composer le puzzle. D'accord. Bon, de la même façon. Imagine-toi que j'avais un papier, j'avais un stylo. Ok. L'artisan il est venu. L'artiste il est venu. Il a fait un dessin. Qu'est-ce qu'il a créé ici? Il a créé quoi? Là c'est un peu plus subtil là. Il a créé le dessin. Mais le dessin, c'est quoi? Il n'a pas créé le dessin parce que l'encre était déjà là.
Ah oui.
Ok. C'est une répartition. Le papier était déjà là. Mmh. Et le papier il vient de la nature. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a créé? Seulement, il a utilisé les ingrédients. C'est comme la cuisine en vérité. Mmh. Comment tu fais de la cuisine? Tu prends les ingrédients qui existent déjà. Et avec la façon de doser, ta façon de cuire, etc. Là, tu dis, c'est un grand cuisinier. Pourquoi c'est un grand cuisinier?
C'est un produit.
Il a créé le produit. Il n'a pas créé le produit. Il a façonné le produit. Donc, ça, c'est un premier exemple. C'est l'exemple le plus simple. Là, dans cet exemple, il est évident que le produit fini ne dépend à aucun moment de son créateur. C'est-à-dire, une fois qu'il a été créé, le produit est le produit, le créateur est le créateur. Pourquoi? Parce que le créateur n'a pas créé le produit. Il n'a que façonné. C'est comme, j'avais une table ici, j'ai coupé la table en deux. J'en ai fait un design. Une fois que tu as coupé la table en deux, la table, elle a besoin de personne, elle a besoin de moi. Parce que la matière existait déjà. J'ai pas créé la matière. D'accord? Donc évidemment, cet exemple n'est pas le bon exemple pour la création du monde. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il faut toujours analyser avant et après. Là, dans le avant et après de la matière, avant j'avais de l'argent, après j'ai un verre de Kiddush en argent. Mais finalement, j'ai pas innové, il n'y a pas quelque chose de nouveau ici. Ce qui est nouveau, c'est la forme. Mais par contre, dans le monde, avant que Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas le monde. Il a créé le monde. Donc le monde est un Kiddush. Donc on parle pas seulement de formation. Dieu n'a pas que formé le monde. C'est pas qu'il y avait du vide. Il y avait de la matière. Et Dieu dit bon, la matière, on va modifier un peu les molécules. On en fait une création, on en fait un monde, comme certains pourraient penser. Il dit il y avait des molécules qui étaient toujours là. Et Dieu, il a bougé les molécules et ça a fait un monde. Non. Nous, on parle dans la Torah de Beria. Beria Taolam. Le jour de le 25 Elul qui arrive bientôt, c'est le jour de la création du monde. Beria. Beria, c'est la création. Donc l'exemple qu'on a donné avec l'artisan n'est pas le bon exemple. Dieu n'est pas comme l'artisan qui a façonné un verre de Kiddush. Parce que Dieu n'a pas que façonné, il a aussi créé. Ok. Donc là déjà on procède par élimination. L'exemple de l'artisan n'est pas bon. Deuxième exemple. D'accord. Le soleil. Pas le soleil. Le rayon qui provient du soleil. Ok. Alors, ça c'est un peu plus subtil. Et on va retrouver dans ce Shacharut de Mouna, on va parler beaucoup du soleil. Le soleil va revenir plusieurs fois. D'accord. Parce qu'en fait, le soleil est un exemple excellent pour développer la relation qu'il y a entre l'énergie et la source de l'énergie. Ok, on va prendre un exemple concret. Bon, maintenant il fait nuit, donc je ne peux pas vous montrer, il fait presque nuit. Mais imaginez qu'il y a un rayon de soleil qui arrive jusqu'ici. D'où vient ce rayon de soleil? Bon, donc il a traversé combien de kilomètres pour arriver jusqu'ici?
159 millions.
159 millions, ils veulent nous vérifier.
159 millions. Regardez sur.
D'accord.
En 8 minutes. En 8 minutes.
Alors, 2 secondes. Je vais. 159 millions, 300 000 km seconde.
300 000 km seconde.
Oui, la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière, c'est 300 000 km seconde. Enfin, c'est la vitesse qu'on a évaluée. À peu près. Ok. Alors maintenant, donc, on a un rayon. D'où vient ce rayon? Il vient du soleil. Là, tu diras quelque chose de nouveau. Voilà. Avant que le rayon éclaire le monde était obscur, noir. Lorsque le rayon éclaire le monde, c'est un monde qui est éclairé. D'accord. Donc là, effectivement, on peut parler d'un chidouche. D'abord parce que le monde, c'est-à-dire celui qui bénéficie, il y a un avant, un après, c'est clair. C'est clair. Il y a un monde obscur, un monde lumineux. Et en plus de ça, même par rapport à la lumière elle-même, finalement, la lumière n'existait pas dans le monde. Là, j'ai de la lumière. Donc là, on pourrait parler de création, a priori. C'est pas de la matière que j'ai façonnée. Là, on parle d'une nouvelle création. C'est-à-dire, je n'avais pas de lumière, j'ai de la lumière. Il y a un avant, il y a un après. Cependant, explique la chassidoute, le rayon qui arrive sur cette terre, en vérité, c'est vrai que c'est nouveau par rapport à la terre. Mais dans l'absolu, c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que d'où vient ce rayon?
Soleil.
Du soleil. Et est-ce que dans le soleil, le rayon est une nouveauté? Est-ce
que... partie de son être.
Exactement. Donc est-ce que dans le soleil, le rayon sert à quelque chose? Pas du tout. Donc ça veut dire que, à quel endroit le rayon prend son importance?
C'est là où il arrive.
Là où le faisceau arrive, c'est-à-dire dans un endroit où le soleil n'est pas présent.
Ah oui.
Et là, il y a un endroit où il n'y a pas de lumière. Et là, comme c'est le rayon qui arrive, là, on va dire, waouh, quand la cavote, tu m'as éclairé. Mais dans l'absolu, ce rayon-là, toi tu le vénères parce que t'as rien. Donc comme t'as rien, dans le pays des aveugles, le Bornéroi, d'accord? Comme t'as rien, tu dis, ah, j'ai un rayon. Mais en vérité, quand tu retournes dans l'absolu, par rapport à ce rayon, d'où il vient? Dans l'absolu, c'est qu'un rayonnement de quelque chose. Donc c'est un rayonnement, quoi. C'est pas la chose elle-même. C'est pas le soleil lui-même. C'est un exemple qui revient souvent par les maîtres de la Kabbalah, mais on va développer ça très longuement. Ça, si vous n'avez pas compris ce deuxième exemple, c'est pas grave. Ça, on va développer longuement plus tard. Pour comprendre que le rayon qui sort du soleil n'est toujours pas une vraie nouveauté. Bon. Alors, en fait, on doit chercher maintenant ce qu'une vraie nouveauté. Quelque chose, une innovation. Et là, je vais expliquer la troisième. Après, je vais expliquer qu'est-ce qui change dans le troisième exemple par rapport aux deux autres exemples. Alors, le troisième exemple, c'est la traversée de la mer Rouge. Comment on a traversé la mer?
À pied sec.
Non, attendez, mais comment ça s'est passé?
Ouverture.
Donc, il y avait la mer devant nous, on est d'accord?
Oui.
C'était une vraie mer.
Oui.
C'était pas fictif.
Non.
Bon. On devait passer. Alors, il y a plusieurs façons d'opérer. Donc imaginez que vous êtes à la place de Dieu. Et que maintenant, il y a une mer devant vous, une mer devant un peuple, et ils doivent traverser la mer. Et papa. Alors, il y a plusieurs options. On peut faire un miracle, par exemple, que les hommes dorénavant volent dans les airs. C'est possible. Alors, on rajoute l'option, comme dans les jeux, tu vois. D'accord.
Ça va, ça.
Ou bien on peut faire
un pont.
Un miracle que, voilà, on peut faire un pont. Enfin, pas mal, j'ai pas pensé à cela, ouais. Ou bien on peut faire un miracle qu'il n'y a plus de mer.
Ah oui.
C'est plus.
Encore plus simple.
Encore plus simple. Il n'y a plus de mer. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, tout l'endroit où on devait passer, Dieu il est sèche, on passe, il n'y a pas de mer.
Marée basse,
d'accord. Marée basse, exactement. Marée très basse, ouais. Marée profonde, il n'y a plus rien.
Ouais, ouais.
Mais c'est pas ce que Dieu a fait. C'est pas ce que Dieu a fait.
Il a fait en sorte que la mer.
Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait souffler un vent très fort. Et la mer, c'est écrit que la mer est devenue une grande muraille. Bon, après, d'après la Kabbalah, on dit que c'est pas une grande muraille, c'est, il y avait 12, 13, même 13 murailles.
13.
Non, comment ça s'est passé? Alors, on va essayer de rentrer dans le miracle. Mettez-vous dans la tête du miracle. Comment ça se passe? Alors là, pareil, je dis, bon, j'ai compris, t'as pas envie de faire de pont, t'as pas envie de nous rendre volant, t'as pas envie de d'enlever l'eau, tu laisses l'eau, mais tu vas la pousser. Alors, ok, j'ai un conseil pour toi. Tu vas faire un miracle que, on va congeler l'eau. Il y a des eaux congelées dans le monde. On va faire un miracle, t'envoies un coup de vent, tu le mets comme ça, tu la congèles, donc de l'eau congelée, elle tient. Elle peut, un iceberg, ça peut monter sur des kilomètres. D'accord? Donc Dieu peut faire un miracle, c'est pas très grand en plus de traverser la mer, c'est pas très haut, ça s'élève à quelques mètres, c'est tout. Il peut faire un miracle, il y a une ouverture, ça devient congelé, on traverse.
Faux. Un iceberg.
C'est pas comme ça que c'est passé. L'eau est restée liquide. Toute la nuit.
Elle est allée.
Elle est restée liquide. Et pourtant, tout en restant liquide, elle tenait dans l'espace. Ce qui est impossible. Ah, attends, j'arrive. Très bien, Razak, c'est bien, une très bonne question. D'accord? Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible, ça marche pas. Parce que, normalement, dans un miracle, il y a toujours, on a fait un cours sur ça une fois, il y a quelques mois, combien de temps dure le miracle?
Une seconde.
D'accord? Voilà, j'ai un ami à moi, que Dieu l'accorde une fois à Shlema, il a fait un accident de voiture grave cet après-midi, bon, au Hachem, il s'en est sorti, il a un peu mal au dos, etc. Combien de temps a duré le miracle? Le miracle a duré une fraction de seconde. Il y a eu un impact qui était très sérieux, et au moment de cet impact, ça aurait pu raser Shalom, mais ça n'a pas fait. Maintenant, après, tout le reste, c'est des dérivés. C'est-à-dire, toute ta vie, il va se raconter, tu sais, j'avais un miracle, etc. Mais finalement, le miracle a duré une fraction de seconde. Et tous les miracles, c'est comme ça. Tous les miracles sont comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de l'eau qui s'est transformée. Qui a parlé de l'eau qui s'est transformée en sang. Combien de temps a duré le miracle?
Un instant.
Combien de temps dure, enfin, miracle. L'eau s'est transformée en sang.
Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent, il y a du sang.
Ça. Très bien. Mais même dans ça, combien de temps dure le miracle?
Un instant.
Un instant. Dès que l'Égyptien met sa main, il prend de l'eau. À cet instant, ça devient de l'eau. Du sang. C'est fini. Le miracle dure un instant. Après l'Égyptien, il peut danser avec ce pot, c'est toujours du sang, c'est fini. Il n'y a plus besoin de miracle après que ce soit du sang.
Une fois que c'est fait, c'est fait.
Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Tu as dit la bonne phrase. Une fois que c'est fait, c'est fait.
Ça, c'est pour les miracles visibles.
Ça, c'est
pour les miracles visibles. Mais...
Tous les miracles comme ça. Une personne qui était malade, il a guéri. Miraculeusement. Combien de temps a duré le miracle?
Tout le temps.
Non.
Non, tu parles.
Le miracle a duré une fraction de seconde. Il y a eu un moment où il y a une transformation. Après, c'est des dérivés. Après, il y a des choses qui prennent du temps. Mais après, le miracle a duré une fraction de seconde.
Oui.
C'est fini. Là, on parle d'un miracle d'une autre catégorie. Le miracle de traverser la mer, et ça va être la clé du cours d'aujourd'hui. C'est un miracle qui n'a pas duré une fraction de seconde. C'est un miracle qui a duré toute une nuit. Ça veut dire que Michael a posé une très bonne question. Il a dit, mais peut-être on va dire que Dieu a modifié la nature, que dorénavant, le liquide tient dans l'air. Que dorénavant, le liquide n'est plus conditionné par les règles de l'attraction terrestre. C'est possible, on aurait pu dire. Il y a des choses qui volent dans l'air. Il y a des choses qui disent l'air chaud, l'air froid. Peut-être on peut dire comme tu dis. Peut-être qu'on va dire que Dieu a modifié, que dorénavant, l'eau qui est dans la mer Rouge, c'est une eau qui n'est plus. Non, c'est faux. C'est ça que va expliquer le Mora Zaken. C'est faux. L'eau a conservé toutes ses caractéristiques.
Ça veut dire qu'il y avait une forme alors qu'il la prenait.
Ah, donc il y a un problème. Donc c'est pas possible.
Oui.
Ça te rend fou parce que c'est pas possible.
C'est-à-dire, si tu regardes la bouteille d'eau là, ici, tu vois que la bouteille d'eau elle tient en hauteur, mais elle tient en hauteur parce qu'il y a un récipient.
Parce qu'il y a un récipient, voilà.
Donc si tu dis qu'elle a tenu en hauteur, ça veut dire qu'il y avait un récipient.
Ah, maintenant, imagine.
Invisible qui l'a tenu.
Voilà. Imagine-toi la scène maintenant, tu as une bouteille d'eau comme ça, sans bouteille, et tu as de l'eau qui a la même forme qui est comme ça, qui n'est pas congelée, qui est liquide et qui a toutes les caractéristiques du liquide, pas gélatiné, pas rien du tout.
La nature n'a pas été modifiée, je te dis qu'il y a une bouteille invisible que je...
Exactement, il a raison, parce que tu dis il y a un bug, il y a un truc.
C'est la main de Dieu.
Il y a un catch, comme ils appellent ça, il y a un truc. Et ben non. Et ça, c'est pour ça qu'on nous parle toujours, quand on veut parler de miracles, de grands miracles, qu'est-ce qu'on prend comme miracle? On prend la traversée de la mer. C'est pour ça que toujours la Gemara, lorsqu'elle veut donner des exemples, des choses qui sont entre guillemets difficiles pour Dieu, comme par exemple marier les gens, etc., on dit que pour Dieu, c'est dur comme la traversée de la mer. Comme la traversée de la mer. J'ai traversé la mer, c'est beau, mais il y a eu d'autres miracles. Et l'eau qui se transforme en sang, et plein de miracles. Pourquoi la traversée de la mer? Parce que dans la traversée de la mer, il y a cette capacité extraordinaire. C'est un miracle constant. Alors qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? Ça, c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute un vrai ridouche, une innovation absolue. Parce que, si on va reprendre les deux exemples précédents. Dans le premier exemple, l'innovation était finalement moindre. Ça veut dire qu'on avait une matière, on avait de l'argent, et j'en ai fait un verre. Donc l'innovation est quoi? C'est sur la forme, le façonnement. J'avais de la matière, j'en ai fait un verre. Donc l'innovation est très limitée. Dans le deuxième, on dit, écoute, en soi, le rayon de soleil n'est pas important, parce que dans le soleil, il vaut rien. Mais moi, ma chorma, c'est que je vais te l'amener dans un endroit où il n'y en a pas. Et donc du coup, tout le monde va le vénérer, parce qu'ils vont me dire qu'il nous a éclairé. Mais c'est pas un vrai chidouche, encore une fois, parce que c'est un chidouche qui est temporaire. C'est-à-dire, ce même rayon, tu le reprends, tu le ramènes à sa source, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut zéro. Donc pourquoi il a pris sa valeur? Parce qu'il s'est éloigné. C'est la distance qu'il a créée. Donc c'est-à-dire, c'est une valeur qui est relative. Par contre, dans le miracle que je viens de vous donner, c'est un miracle qui est intemporel. Le miracle de la traversée de la mer, le miracle de l'eau qui s'érige en muraille. C'est un miracle qui est intemporel. Il s'arrête jamais. Ça veut dire que tu peux analyser, ça s'est passé toute la nuit, tu peux analyser à minuit, à 2h, à 4h du matin, à 6h du matin, tu peux analyser, c'est toujours, tu seras toujours le même ébahissement. Après, peut-être toi, tu vas t'habituer, tu vas dire, c'est comme ça. Mais le miracle restera, conservera toute sa puissance. Ça, c'est un exemple pour nous montrer que dans la vie, il y a très peu de choses qui sont innovées constamment. Maintenant, le retournement de situation que va faire Edmond Razakel dans ce chapitre, c'est qu'il va nous prouver que, en vérité, chaque seconde de notre vie, c'est comme une traversée de la mer Rouge. Chaque seconde de notre vie est un miracle permanent. Un miracle qui doit être constamment alimenté. Parce que tu as donné un très bon exemple. Tu as dit, voilà, dans la bouteille, si elle tient toute seule, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui la compacte tout le temps, qui est là, qui la tient. Et cette personne-là doit tout le temps le faire. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que si ça s'arrête, ça retombe. Alors, la direction que va nous faire prendre l'Admor Azaken, c'est qu'en vérité, notre monde, notre vie, et chaque parcelle de notre monde, si elle est là, c'est parce qu'il y a un créateur qui l'a fait vivre maintenant. À l'instant où je vous parle, maintenant. Et donc l'innovation est aussi forte que la traversée de la mer. Ah, dans ce cas-là, pourquoi on n'arrête pas de parler de traversée de la mer? Parce qu'on a traversé la mer, on a vu de nos yeux. C'est-à-dire que moi, quand tu me dis maintenant, tu sais, Mendy, devant toi il y a de l'eau, cette eau est générée maintenant par Hachem, et c'est une nouveauté, c'est une innovation, etc. Je dis, écoute, je vais bien te croire, mais moi, cette eau, je l'ai vue il y a 10 minutes, je la verrai dans 10 minutes, et elle est là. Bon, je te crois sur parole, je vais bien te croire, mais j'ai du mal à me l'imaginer. J'ai du mal à le vivre, j'ai du mal à le sentir concrètement. Mais dans la traversée de la mer, on le voyait concrètement. C'est-à-dire que ce qui a fait le miracle dans la traversée de la mer, c'est qu'on a vu clairement des choses qui étaient toujours là. D'accord? Bon, on va développer un peu parce que là, ça commence à devenir un petit peu abstrait. C'est un chapitre qui n'est pas simple. On va prendre le temps qu'il faut pour ça. Mais je pense que c'est un chapitre très important. Surtout quand on s'approche de Rosh Hashanah. On est au Mandat de Loup maintenant. Et comprendre comment on peut dire que Dieu gère chaque seconde, chaque instant, chaque parcelle de notre vie, de toute l'humanité. C'est ça en vérité ce qu'on a essayé de comprendre. Que Dieu ne, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. Dieu s'occupe de chaque petit détail. Il n'y a rien qui lui échappe. Et c'est pas parce que rien ne lui échappe, c'est pas parce que c'est un patron qui est obsessionnel, qui veut rien lâcher. Parce que s'il n'était pas là pour générer ce petit détail, c'est un certain. Bon, on va développer maintenant. Je crois qu'il y a une question. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair?
Oui.
Vous avez du crédit.
Non, mais quand tu parlais du rayon de soleil.
Oui.
Le soleil, il n'est pas dans le rayon, hein, de toute façon.
Non, il est l'émetteur.
Mais est-ce que le rayon est dans le soleil?
Non plus.
J'ai une question à vous poser. Si on va ouvrir le soleil, on rentre à l'intérieur, on va trouver des rayons?
Non plus.
Alors d'où viennent ces rayons?
C'est que des molécules. Si on veut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer.
D'où ils viennent ces rayons? D'où ils viennent? Est-ce qu'on peut définir la lumière?
Pas d'accord. Moi je ne crois pas ce que je vois.
Attendez.
Je crois ce que je ressens.
Voilà. Joseph, est-ce qu'on peut définir la lumière?
Bonsoir.
L'électricité, on peut la définir.
Pour les mathématiciens,
la lumière,
les grands chercheurs, ceux qui travaillent sur la lumière,
on peut attendre deux secondes, excuse-moi. Est-ce qu'on peut la définir ou est-ce qu'on peut définir la réaction qu'on a, la réaction de l'électricité?
Non,
c'est pas la même chose en physique.
On peut définir ce que c'est. C'est un déplacement de photons, le courant, c'est un déplacement d'électrons.
Donc tu définis des réactions?
Non.
Est-ce que je peux définir ce qu'est l'électricité?
Oui.
Ce que c'est?
C'est un déplacement.
Est-ce que je peux la définir aussi clairement que j'ai fini une table? Je sais que c'est pas simple comme question.
Ah oui, la
bon.
On peut l'emmagasiner dans une pile, donc on peut la définir, on peut la concentrer.
Ah, c'est pas si simple. C'est pas, encore non, une fois, tu m'analyses des réactions. C'est pas parce que j'arrive à la contracter que je sais ce que c'est.
Ben si, on fait ce qu'on veut aujourd'hui avec l'électricité. On en fait ce qu'on veut.
C'est pas parce que je fais ce que je veux que je sais ce que c'est.
Bah si je savais pas ce que c'était, je savais que
c'était pas ça. Bon.
L'énergie est la même. Hein,
allez, on y va. Bon. Alors, Vayiné, on y va. Chapitre 2, page 34. Mikan, Tshuvat Haminim. De là. Ça veut dire avec l'explication qu'on a expliquée dans le premier chapitre, que la parole de Dieu est constante, que la parole de Dieu ne s'arrête jamais, que la parole de Dieu génère le monde à chaque seconde. Avec ça, on va trouver une réponse aux hérétiques. Voilà. Donc il annonce clairement la couleur. Vegilou Shoresh Taoutam. Et on va expliquer, on va dévoiler la source de leur erreur. Parce que la Dvar HaZaken n'est même pas juste pour dire vous vous trompez, vous avez rien compris. Il faut expliquer d'où provient leur erreur. A Kofrim Bashgara Pratit Votet Mofte Torah. Donc les hérétiques de l'époque de Dvar HaZaken, mais bon, ils ont peut-être pas changé certainement, c'est des gens qui nient la providence divine. C'est-à-dire quoi la providence? C'est-à-dire ils vont te dire, moi ça me dérange pas de croire que Dieu a créé le monde. C'est pas des gens athées. C'est des gens qui croient peut-être que Dieu a créé le monde, mais qui disent, je vois pas pourquoi je devrais dire que Dieu fait attention à chaque détail qui se passe dans le monde. Peut-être qu'il revoit les grands événements. Grands événements, voilà. Sortie d'Égypte, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Bien les naissances, les morts, les mariages, etc. Les grands événements. Il dit, bon, ça je veux bien, peut-être que Dieu, il regarde. Mais pourquoi on doit dire que Dieu il regarde, que Dieu il, on parle de providence de Hashgacha, que Dieu il regarde chaque seconde, chaque instant, chaque détail. Vous votez la Torah. Et de la même façon, ces gens-là vont aussi parfois nier les signes et les miracles mentionnés dans la Torah. Et les signes et les miracles. C'est quoi la différence entre un signe et un miracle, David? C'est quoi la différence entre un signe et un miracle?
Je ne sais pas.
Hein? Et des signes?
C'est un vrai miracle, Salomon.
Ouais.
Un vrai miracle.
Enfin, il y a un faux miracle, là. Il y a des fois des signes. C'est quoi un signe? C'est par exemple quelque chose qui se passe, qui en soi n'est pas un miracle, mais comme il arrive à un timing spécifique, tu avais besoin d'une info, etc., tu viens de demander quelque chose, tac, ça arrive, tu dis, ah, c'est un signe, ça. C'est un signe.
C'est la providence.
Donc ça, c'est exactement. Donc c'est une forme de providence. De dire qu'il y a quelqu'un, qui profite de tout ça, quelqu'un qui s'est arrangé, je peux même pas dire quelqu'un, qui s'est arrangé pour que cet événement arrive à ce moment-là. C'est un signe. Il y a encore plus fort que ça, un miracle. Un miracle, ça veut dire que des choses vraiment que là, c'est pas juste la coïncidence qui est importante, c'est carrément un miracle. C'est-à-dire qu'il y a eu un transformement de situation. Mais dans la vie, dans la nature, il y a des imprévus. Donc il y a des gens, il les appelle ici les hérétiques, qui ne croient pas en la providence divine. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, la providence divine, ça n'existe pas. Dieu voit les grandes choses, mais les petites choses ne regardent pas. Les signes, ça n'existe pas, c'est le hasard. Le hasard.
Ah, ça n'avait pas dû en ce cas-là.
Une seconde, c'est le hasard. C'est le hasard, ça s'est fait comme ça. Quand tu prends 1 sur 1 milliard, et ben t'étais, il y avait une chance, ça arrive, mais c'est toi.
Ah oui.
D'accord. Et même le miracle, on dit, bon, ben, un miracle, c'est possible, mais on va toujours te trouver un phénomène.
C'est
un
hasard.
D'accord. On va toujours parler, vous savez, que même sur la traversée de la mer, oui. Une fois on était venu voir le Rav Elchanan Wasserman, que Dieu venge son sang, et il était tué pendant la Shoah. C'était un des grands rabbinim de Vilna, le Roche Yeshiva et tout. Et on lui avait dit la chose suivante. On lui avait dit, il y avait un scientifique qui était venu le voir, qui lui a dit, maintenant, on a des preuves, etc., qui disent que tous les moutons étant d'année, il y a l'eau qui descend comme ça, etc. Bon, il y a un mouvement de, oui. Ce qu'on aurait appelé aujourd'hui un ouragan, quelque chose comme ça. D'accord?
Oui,
alors, attendez, donc Claude, du coup, voilà, il voulait vous dire, aujourd'hui, avec la science, on sait que. Alors, le Rav lui a répondu comme ça. Il lui a dit, même si on va dire t'as raison, bon, d'accord, je dis pas que t'as raison, t'as tort, on sait rien, même si on va dire t'as raison. Le fait que ce phénomène arrive exactement au moment où on en a besoin,
oui.
C'est un miracle.
Ben oui.
C'est-à-dire, pile quand tout le monde est bloqué, tu comprends, un moment où tout le monde est bloqué devant, pile à ce moment-là, t'as le phénomène naturel qui fait que ça s'ouvre. D'accord? D'autant plus que nous, on n'a pas besoin, on ne rentre pas dans ce calcul de dire que c'est naturel, c'est pas naturel. On dit, il y a Dieu, maintenant je ne rentre pas dans le calcul de Dieu, comment il a fait ça? Est-ce qu'il est passé par tel conduit de la nature? Est-ce qu'il est passé par un ouragan? Est-ce qu'il est passé par un tsunami? Est-ce qu'il est passé par un coup de vent? Est-ce qu'il est passé par un tremblement de terre? C'est pas mes affaires. Moi, je sais que j'étais dans la détresse, j'avais besoin qu'il me sauve, il m'a sauvé, Nigmar. C'est tout, c'est fini, il m'a sauvé, je suis sauvé. Donc, il y a des gens, des hérétiques, qui ne croient pas en la providence divine, et donc, un dérivé de ça, si tu ne crois pas en la personne ne croit pas en la providence divine, il ne croit pas dans les signes, il ne croit pas dans les miracles. Ok. Alors, quelle est leur erreur? Finalement, pourquoi ils se trompent, ces gens-là? Il faut leur prouver qu'ils se trompent, il faut expliquer pourquoi ils se trompent. Finalement, on comprend la logique. Ils vont dire, écoute, je veux bien que Dieu peut intervenir quand il veut, mais pourquoi tu veux qu'il intervienne chaque seconde? Alors, il dit comme ça. Chez Torim, Bedimionam, Akosev. Ces gens-là se trompent avec leur fausse analogie. C'est une analogie, ça veut dire que, en fait, ce qu'on aura appelé aujourd'hui, c'est un problème de référentiel. Ils n'ont pas les bons repères. C'est quand tu compares une chose à une chose qui n'est pas comparable. Et il va expliquer tout de suite. Chez Medamin, Maase, Hachem, Ose, Shamim, Baharetz. Ces gens-là, c'est une erreur qu'ils font. C'est-à-dire que l'Amorazaka est gentil avec eux. Il ne dit pas que c'est des imbéciles, il ne dit pas que c'est des renégats. Il dit, ils se trompent, c'est une erreur. Ces gens-là comparent l'œuvre de Dieu qui fait le ciel et la terre. Les Maasé et Noj Vitarboulotav à l'œuvre d'un homme et ses artifices. Ça veut dire que quel est le problème de base? Dans l'équation, on a un problème qui fait tout sauter. C'est quoi? C'est qu'ils ont comparé la création de Dieu à la création d'un homme. Effectivement, si la création de Dieu était comparable à la création d'un homme, alors effectivement, Shuv en Akeli, je suis à la page suivante, Shuv en Akeli Tsarik Lida Tsoref. Effectivement, dans une création, je suis à la page 35. Dans une création qui est faite par un homme, une fois que l'homme a créé et façonné l'objet, l'objet n'a plus besoin désormais des mains de l'orfèvre.
Oui.
Ça veut dire qu'on dira peut-être toujours que c'est Philippe Stark qui a dessiné cet objet, pourquoi pas. Mais l'objet n'a plus besoin de Philippe Stark. Et je veux dire plus que ça. Aujourd'hui, on a peut-être des petites mains qui vont te faire un objet, et vont te mettre dessus Philippe Stark, et tout le monde va dire c'est Philippe Stark. Ah ouais. Donc ça veut dire que ce que je veux dire par là, hein, alors tu veux dire oui, mais le vrai artiste, il saura voir que ça c'est Philippe Stark. Bon, sinon, ça c'est un Picasso, ça c'est un truc. Bon, ok. Toujours, de temps en temps, il y a comme ça, toutes les quelques années, il y a des scandales, qu'il y a un artiste qui était là, qui a fait des faux Picasso et qui les a vendus et que tout le monde a mordu l'hameçon. Et que jusqu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Personne ne sait ça. Tout le monde dit, on croit que c'est vrai. Et l'autre, il a berné parce qu'il a, bon. Mais ça change pas. Même si tu veux dire qu'il y a un expert qui va dire ça, c'est un vrai Picasso, c'est ça un faux Picasso. Disons. Mais une fois que Picasso a fait son tableau, Picasso n'a plus besoin d'être là. Il peut partir. Son tableau reste là. La preuve, il est parti. Son tableau est là. Qui af, comme ils disent dans les mots, qui af chez Yadav mais sous la côte et mes nouveaux l'achlobachouk, même si les mains de l'artisan vont quitter l'objet et qu'il s'en aille dans la rue, ça veut dire que, bon, voilà, il quitte, akli, kayam, betavnito, betsalom, mamash. L'objet demeure dans sa façon et sa forme vraiment, kaacher, yatsam, idéat, ce rêve, tel qu'il est sorti des mains de l'orfèvre. Ça veut dire que, c'est un peu la loi de la préservation, ça veut dire, on t'explique comme ça, on te dit, voilà, moi j'ai façonné un objet, d'accord? J'ai pris une bouteille, j'ai fait comme ça. Voilà, je donne une petite forme. Oui. Maintenant, je peux sortir la pièce.
1000 euros.
D'accord, ouais, 1000 euros. 1000 euros, c'est un lundi. Donc, j'ai façonné. Maintenant, je peux sortir la pièce. Est-ce que. Non, mais attendez, écoutez bien ma question, parce que c'est très important cette question. Est-ce que la forme de l'objet est conditionnée par ma présence?
Alors, oui, une fois que c'est fait.
Ça veut dire, est-ce que l'objet reste comme ça parce qu'il dit, ah, attention, lundi, il est là. Mais dès que je sors la pièce, il dit, c'est bon, je reviens. Non, pas du tout. L'objet. Je l'ai mis comme ça, mais après je peux rester, je peux sortir, je peux sauter, je peux danser. L'objet il bouge pas. L'objet n'a plus besoin de moi et l'objet n'est plus conditionné par moi. Maintenant, quelle est l'erreur qu'ont fait ces hérétiques? C'est qu'ils ont comparé la création d'Hachem à la création d'un ustensile. Ils ont dit de la même façon que l'ustensile, une fois qu'il est façonné, il n'a plus besoin du façonneur. Il est là, il fonctionne. Tant que tu ne touches pas, il restera là, il peut rester 1000 ans, pas de problème. Donc ils disent de la même façon. Pourquoi on dirait pas de la même façon pour la nature? Dieu a fait un monde magnifique. C'est vrai que c'est une aberration de croire que ce monde s'est fait tout seul. C'est pas possible. Le monde s'est pas fait tout seul. Appelle sa nature, appelle sa Big Bang, appelle ce que tu veux, mais il y a quelque chose, quelqu'un qui a fait ça, c'est pas fait tout seul. Il faut être fou pour dire qu'il y a une personne qui a fait. Mais tiens, pas trop là, je suis d'accord, il y a quelqu'un qui a fait au début. Il y a un artiste qui a fait tout ça au début. Mais après, l'artiste, c'est même pas qu'il s'est retiré. C'est que la présence ou l'absence de l'artiste ne change rien. S'il veut l'artiste, il peut casser l'objet qu'il a fait. S'il veut, il peut. S'il veut, il peut le modifier. Il peut. Mais tant qu'il fait rien, tant qu'il touche pas, ça fonctionne.
Ils ont pas tort, excusez-moi, alors, entre guillemets. Ils ont pas tort quelque part.
Bien sûr qu'ils ont pas tort. L'argument est un argument de taille.
Non, même pas. Voilà. Même pas.
Pourquoi?
Parce que, en fait, la question est la suivante. Est-ce que la création d'une création est-elle une création? Je sais pas si vous me suivez.
Oui, j'ai compris.
Ben non. Enfin, en quelque sorte, non. Un peintre, il va utiliser des pigments qu'il va trouver dans la nature, il va utiliser une toile de lin pour peindre dessus, il va utiliser son intelligence ou sa créativité pour peindre, mais finalement, lui-même, il est création. Donc, c'est il n'utilise que de la création pour créer. Donc, finalement, on peut dire que lui, finalement, c'est pas ce qu'il en sort de lui, c'est pas de la création.
C'est pas si simple, parce que l'homme, par exemple, l'homme peut procréer. Et ça, c'est une vraie création.
Procréer. Ah, c'est un autre domaine. Je parle au niveau.
Chose, ça change.
Et encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une goutte de semence avec un.
Oui, mais attendez, mais la goutte, on va créer.
Il est conscient de...
Non, mais conscient, pas conscient, ça change rien, ça.
Il crée rien du tout.
Bien sûr qu'il a créé.
Il crée rien du tout. C'est Dieu qui crée.
Non, mais évidemment que Dieu crée.
Donc.
Mais il y a une création. Non, il y a une création. Une création, c'est...
Il crée rien du tout. Il crée par rapport. Parce que Dieu lui a mis au sein de son.
Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair que Dieu est derrière. Mais il a créé. Il a créé quelque chose. On parle de procréation. D'accord? Bon, alors, on va essayer de comprendre, en fait, pourquoi la création du monde, parce que Serge a la raison, pose une bonne question, il dit finalement, ils n'ont pas si tort que ça. D'accord? Je te traiterai pas d'hérétique. parce qu'en fait, ils ont quand même la chance que leur argument est cité dans le Tanya. C'est-à-dire que, Morazaken prend l'argument. Il va pas prendre l'argument des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Parce que ça, c'est des imbéciles. On parle même pas d'eux. Il ne va pas prendre l'argument des gens qui vont dire que le ciel est en bas et la terre est en haut. Bon, ça c'est des imbéciles. Il va prendre l'argument des gens sérieux. Des gens sérieux qui te disent un vrai argument. Tu dis, il y a une création, j'accepte. Mais une fois que le monde est créé, il y a 5079 ans, une fois que le monde est créé, il fonctionne. Touche pas, ça fonctionne. Pourquoi tu veux que ça se casse? Est-ce que la voiture a besoin du concepteur de la voiture qui soit présent chaque seconde dans la voiture pour que ça fonctionne? C'est un concepteur. Mais là, vous voyez, encore une fois, on a le piège. C'est qu'on parle d'un concept. Tu peux créer un concept. Effectivement, le créateur d'un concept n'a pas besoin d'être présent à chaque seconde à côté de la création. Mais tu n'as pas créé, finalement. C'est un concept. C'est une conceptualisation. Donc, un concept, ce n'est pas une création. Ce n'est pas une vraie création.
Au début, du cours, c'est tu prends de l'argent.
Il est où, là-dedans? C'est une très bonne question.
Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que
La feuille qui tombe à l'instant à un instant T, elle est déjà prévue.
Oh oui, mais c'est pas, je rentre même pas dedans, je vais plus loin que ça dans ta question.
Mais moi,
si tu me dis.
Si moi demain matin, je mets pas les filles.
C'est une question très profonde, on va en parler plus tard, si tu veux. Pas aujourd'hui, dans quelques mois. Hein.
Demain matin, je suis.
Parce que c'est une question complète.
Tout à l'heure, dans 5 secondes,
voilà. La question, c'est pas sur la feuille, c'est ce que j'allais dire. La question, c'est sur une Avera. Si tu dis que quand je fais une Avera, celui qui me vivifie au moment où je fais l'Avera, c'est Dieu, et qu'une seconde avant, il me vivifie, mais il aurait pu s'arrêter, qu'il continue, ça veut dire que Dieu vivifie l'Avera, et que et donc Dieu, quelque part, fait l'Avera. C'est Dieu qui fait l'Avera. C'est une question très complexe que tu poses. C'est vrai que, non mais je comprends la question de l'ECR, on peut comprendre pourquoi l'argument de ces hérétiques, ou en tout cas de ces gens qui n'ont pas compris, simplifie beaucoup les choses. C'est vrai que même au niveau de la Emouna, pour ne pas rentrer dans des complexes de libre arbitre et de contrôle et de pas contrôle, le plus simple c'est de le dire comme ils disent. De dire écoute, il l'a créé, ça tourne,
on reconnaît que c'est lui, bien sûr.
Voilà, on reconnaît que c'est lui, si tu fais le malin, il revient, voilà, il te suit de loin, caméra, il te suit de loin, c'est le plus simple de dire ça. J'ai pas de problème de lire en vite, parce que je suis là, je suis un acteur, je joue, je fonctionne, j'ai des comptes généraux à rendre à Kadosh Baruch Hu, mais globalement ça tourne. Mais là, on complique un peu les choses, là. Là, on est en train de te dire, c'est Dieu qui vivifie chaque seconde. Alors, qui suis-je, dans ce cas-là? C'est-à-dire, où est l'évolution? De toute façon, c'est lui qui vivifie chaque chose.
On se sert de ce qu'on l'on est pour pouvoir faire cette analogie, forcément.
Oui, mais on se sert de ce que la Torah nous dit. Et la Torah est un référentiel de vérité.
Donc, c'est exactement le sens du message de ce texte-là.
Ah oui.
C'est de considérer que tu ne dois pas être dans une démarche d'analogie.
Exactement. C'est que en fait, il veut nous amener à une. C'est un très bon point. Il veut nous amener ici, si tu veux, à une conclusion qu'il n'y a rien sur Terre qui peut se comparer à la création du monde. Donc, on peut le comparer à aucun phénomène. Parce que tous les phénomènes auxquels tu vas pouvoir comparer, c'est des phénomènes qui ne sont pas des créations.
Mais pourquoi on compare? C'est pour expliquer. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir intégrer ça.
Alors au moins on va procéder par élimination. Au moins on va comprendre ce que c'est pas. D'accord? Après comprendre qu'est-ce que c'est une création, je peux pas comprendre. Parce que j'ai jamais vu de ma vie une création.
Oui.
C'est pas une création. Et même quand tout à l'heure on a parlé de procréation, c'est quoi la procréation? On va parler même d'une graine.
C'est
attention, mais c'est quoi une graine?
C'est nous.
Prends une graine. Tu mets dans le sol.
Elle contient concentré.
Elle a un programme qui est en place.
Qu'est-ce qui va se passer dans le sol?
Elle a tout.
Attendez, qu'est-ce qui va se passer dans le sol?
Pourrissement.
Voilà, pourrissement. Pourrissement. La graine va se
décomposer.
Donc, prends, on parle de création, parce qu'effectivement, comme la graine s'est décomposée complètement, donc on parle d'une nouvelle création, c'est ex nihilo, c'est parce que ça démarre de zéro. Mais en vérité, ça démarre pas vraiment de zéro, parce que ça a démarré. C'est une réaction suite à une décomposition antérieure. Donc il y a quelque chose avant.
Donc c'est pas ex nihilo.
Donc c'est presque ex nihilo. C'est quand même ex nihilo parce que ça a démarré de zéro. Si vous voulez, pour enclencher le 0 à 1, il a fallu qu'il y ait eu 1 qui revienne à 0. Mais on peut pas dire que c'est un vrai ex nihilo. Mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même
0,000.
Voilà, il y a toujours quelque chose. Ouais. En fait, nous dans le monde, on ne peut pas créer. Comment dire, rien ne
se perd,
tout se transforme.
Tout.
Voilà, il y a rien dans le monde qui se crée. Enfin, c'est faux. Enfin, il y a rien que l'on crée. Il devrait dire, pas quoi qui se crée. Dieu crée. D'accord. Ok. Donc, on continue. Ar, cependant. Tar, merot, je suis au milieu de la page 35. Ar, cependant. Où est l'erreur? Tar, merot, enem. Leurs yeux sont englués. C'est une image, image passée, moi. De voir. C'est-à-dire, ça, c'est une expression talmudique pour dire, lorsque quelqu'un, là, il y a des gens qui ont les yeux fermés.
Eh ben, c'est de ne pas avoir de discernement.
Ah ouais, mais là, carrément, c'est-à-dire, des fois, quelqu'un dit, bon, ouvre tes yeux. Mais là, c'est pas, il dit, ouvre tes yeux, c'est dit, t'as les yeux
englués.
Ça veut dire, quand même, quand tu veux ouvrir, t'arrives pas à ouvrir. T'es à côté de la plaque. Tachenehem merot, aevdel agadol, sheben masenel jetabulotav. Ils sont incapables de voir la grande différence entre l'œuvre d'un homme et ses artifices. Chez où Yesh Miyesh, comme a dit Jacob tout à l'heure, que la création d'un homme finalement, c'est Yesh Miyesh. Ça veut dire, on crée une existence à partir d'une autre chose existante. Maintenant, peut-être c'est quelque chose d'extraordinaire ce que tu as fait. C'est-à-dire, t'as pris du bois, t'en as fait du papier, t'as pris du pétrole, t'en as fait du plastique, t'as transformé, mais il y a des vraies transformations.
Donc, ça veut dire que si
surtout quand on rentre dans la chimie, c'est une vraie transformation, ça n'a rien à voir avec le produit de départ. C'est une transformation qui est innovante, qui est extraordinaire, mais ça reste toujours Yesh Miyesh. Ça reste une, une existence qui provient d'une autre existence. Et ça, c'est valable aussi pour la procréation. Ou pour la, que c'est, ça reste un yesh miyesh. Alors c'est vrai que là, c'est un yesh miyesh en passant par un haïn. C'est-à-dire, des fois, tu as une existence qui provient d'une autre existence en passant par un stade de néant, comme pour la graine. Mais ça reste un yesh miyesh. Ça reste une existence qui vient d'une autre existence. Alors que, rak shemeshanet suravatmuna. Sauf que dans le concept, il a changé la forme et l'apparence. D'accord? Mitmunat ratirat kesef, mitmunat kli. De l'apparence d'un bloc d'argent à celle d'un objet. Parce que vous savez, quand on façonne, il y a beaucoup de choses. D'abord, t'as l'apparence. Mais t'as aussi la forme. C'est-à-dire, t'as le fond et la forme. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, par exemple, dans le métal que j'avais ici, l'artisan, il a fait beaucoup de choses. C'est pas seulement qu'il a pris du métal et qu'il en a fait un verre. Il a pris ce métal, il a mélangé avec d'autres métaux. Il y a eu un mélange qui a été fait.
C'était du minerai.
Exactement, du minerai, il fallait extraire.
Il fallait faire fond.
Il fallait le. Comment on appelle ça Il fallait le. Tsarfat, comment on dit Tsarfat. Il y avait un creuset. Un creuseuse, d'accord. Il faut le faire fond, il faut le raffiner, etc. Surtout pour l'or, encore plus. Il y a un travail. Un travail qui a été fait. Mais encore une fois, ce travail, c'est quoi? C'est pas une création.
Une transformation, finalement.
C'est une transformation.
C'est ni plus ni moins qu'une transformation.
D'accord. On a changé la forme, on a changé l'apparence. Avant, j'avais un minerai, maintenant, j'ai de l'argent. Avant, j'avais de l'argent brut, maintenant j'ai de l'argent qui est en forme de verre. Bon, c'est bien, c'est beau. Mais ça reste une transformation. Yesh, miyesh. On tourne la page. Eux, ils veulent comparer ça. Les maaseh, shamaim, va'aretz, shehu yesh miyaim. Ils veulent comparer ça avec l'œuvre de la création du ciel et de la terre. Shehu yesh miyaim, qui est une existence à partir du néant. Parce que tout à l'heure, on posait la question avec Michel, justement. Voilà, on disait, qu'est-ce qu'il y avait avant que Dieu ait créé le monde?
Rien, le vide total.
Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que c'est le néant?
Non,
parce que rien. C'est
non, parce que nous dans notre tête,
alors moi, non, on ne sait pas ce que c'est.
Non, on peut pas comprendre ce néant. Je veux dire
on
pourquoi
pas de référent.
Parce que moi dans ma tête, je sais pas si vous avez un autre référentiel. Mais moi dans ma tête, quand je vais imaginer le néant, qu'est-ce que je vois?
Du noir.
Je vois du noir, je vois du vide, je vois du vide surtout. Maintenant, le vide est une création aussi, parce que le vide c'est de l'espace. Bah oui.
Bah oui.
Le vide c'est de l'espace.
C'est de l'espace.
Donc l'espace.
Il y a pas d'espace, c'est impossible.
Alors, tu vas dans l'espace.
Comment tu peux comprendre une situation? On peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que exactement, notre cerveau est conditionné pour ne fonctionner qu'avec l'espace et le temps. On peut pas comprendre ce qui n'est pas espace et temps. On peut pas comprendre. Pas possible. Non, je peux pas comprendre ce que c'est quelque chose qui n'a pas d'espace et qui n'a pas de temps.
Alors nous, on est où dans on est entre les deux.
On est dans l'espace et le temps. On est dans l'espace et le temps.
C'est la théorie.
Mais il te dit, d'où vient ce monde? D'où vient ce monde? Ce monde vient du néant. Donc toi, tu veux comparer une transformation d'un artisan, qui effectivement a fait ça, qui peut partir et ça restera ça. Tu veux comparer ça avec une création, une vraie création. Là, on peut parler vraiment de Beria. Beria, une création, yesh me'ayin, une création ex nihilo. Ça veut dire ex nihilo, une existence à partir de rien du tout. Mais là, écoutez bien ce que dit le Morazakaïn. Regardez jusqu'où va pousser l'argument. C'est-à-dire, quand tu réfléchis, la création ex nihilo est une innovation encore plus grande que la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que la traversée de la mer, finalement, est-ce qu'on a ex nihilo? Est-ce qu'on a une existence à partir du néant?
Il y a toujours de la matière.
Alors c'est vrai que la transformation de la matière est une transformation qui est constante, ce qui est impossible normalement. Parce que normalement, une fois que c'est transformé, c'est fini. Et là, il conserve constamment ses caractéristiques tout en étant modifié, ce qui est impossible, c'est pas possible. C'est quelque chose qui nous prend la tête. Vous savez, on avait ça aussi, on avait fait un conférence sur ça. On avait ça aussi dans le Saint des Saints. On avait comme ça un espace qui occupait un certain espace. Et pourtant, le Haron n'occupait pas de place. Ça veut dire que ça occupait d'espace sans occuper d'espace. Ce qui n'est pas possible. Parce que normalement, ou tu es dans les limites de la nature, ou tu n'es pas dans les limites de la nature. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu ne peux pas être limité et illimité en même temps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans le monde et hors du monde en même temps. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas.
Il y avait le temps.
Alors, tu dis, là, voilà, ce qui était le Morazakaïn. Il dit comme ça. Il te dit, la traversée de la mer, je parle déjà de l'ouverture de la mer, c'est un grand miracle. C'est un très grand miracle. Et dans les miracles existants, dans les miracles que nous, on connaît, c'est le miracle le plus fort. Parce que c'est une transformation de matière qui est constante. Transformation constante. Le miracle est constant. Mais ça reste quand même une transformation de yesh à yesh. D'une existence à une autre existence. À aucun moment il y a du néant ici. À aucun moment on te dit, il n'y avait pas de mer, il y a une mer. Ça n'y est pas. Non. Il y avait une mer, elle a toujours été là, seulement modifié sa forme. Constamment, avec un miracle, etc. Quand tu réfléchis, la création du monde, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pas que Dieu a pris une matière, qui, des molécules qui existaient déjà, et a dit, bon, on va modifier ces molécules, on va en faire un monde. Maintenant, ça peut être rien du tout. Vous savez, avec un cube, avec, on dit qu'on peut, si on, on pourrait condenser tout dans un cube. Il y en a qui vont dire, vous allez dire, écoute, moi j'ai un cube à la base, ça me dérange pas. Mets-moi un cube. Et avec ce cube, je te fais toute l'humanité. Je te dis non. Il n'y a rien. Et même rien, je peux pas dire. Parce que rien, c'est déjà quelque chose. Néant. Voilà, on a trouvé le mot néant, c'est le mot que les philosophes utilisent pour dire, voilà, c'est pour dire c'est néant. C'est néant. Et ça, c'est quelque chose que notre cerveau n'est pas conçu pour comprendre. Il te dit, si la de Morazaken, ce miracle est encore plus fort que la traversée de la mer. Donc, et alors, en quoi ça prouve leur erreur? Il faut qu'on arrive à la fin du raisonnement. En quoi le fait que le monde est une création ex nihilo nous oblige de dire que Dieu ne peut pas se retirer de ce monde? Et finalement, après, on dirait pas comme, ok, d'accord, j'ai compris. Je comprends ce que tu as dit. C'est une existence ex nihilo. Maintenant, elle est là, l'existence. Alors, c'est une fois qu'elle est là, elle peut se retirer. Qu'est-ce que ça a changé? On a repoussé le problème, c'est tout. D'accord? Alors là, Brazakam va continuer le raisonnement. Je sais pas si on aura le temps d'y arriver au bout du raisonnement aujourd'hui, parce que c'est un chapitre qui est pas simple. On aura à le répéter un peu la semaine prochaine. D'accord? On va essayer d'avancer comme on peut, et après on reviendra si tu veux. Alors on y va. Vehu, page 36. Vehu, Pele Gadol Yoter Mikriat Yesu Oder Machal.
Deuxième paragraphe.
La création, ex nihilo, est une plus grande merveille que l'ouverture de la mer. Pourquoi? Shihol, Yirachem et Tembor, Kadimazak, Olalaila. On le sait, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la traversée de la mer, Dieu a dirigé la mer avec un puissant vent de l'Est toute la nuit. Voilà, ça c'était pour ta question, Michael. Il y avait un puissant vent de l'Est qui était là, qui dirigeait constamment l'eau en muraille. Bon, très bien.
Il a pas changé la nature.
Maintenant, le miracle c'est quoi? C'est qu'il y a un vent qui est arrivé et que ce vent ne s'arrêtait pas.
Au moment où ça nous a intéressé.
Maintenant, si Dieu avait arrêté le vent, ne serait-ce qu'un seul instant,
La mer tombe. La mer retrouve son état.
Donc ça veut dire que finalement, on n'a rien changé ici. On n'a pas changé. C'est-à-dire que l'eau a conservé son statut, l'eau a conservé ses caractéristiques, elle est restée la même. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que Dieu a fait un miracle, un gros vent qui est arrivé. Ben, c'est un grand miracle, du vent qui arrive, que ça te fasse 12 passages, etc.
Et
comment on n'est pas expulsé avec, comment ouais. On passe, c'est des questions. Mais ça n'empêche que c'était conditionné par le soufflement du vent. Je termine le raisonnement, deux secondes. Mais il ou ipsi kadesham et taruar karega. Et si Dieu avait, d'accord, interrompu le vent un seul instant, les eaux seraient de nouveau écoulées vers le bas, selon leur voie et leur nature. Donc finalement, on n'a rien changé. Et c'est sûr qu'elle n'aurait pas continué à s'ériger comme une muraille. Maintenant, il continue de nous raconter. Page 37 maintenant. Av shateva azeh b'maim gam ken nivra mechodesh mayin. Il va aller plus loin parce que c'est pas simple comme question. Bien que, en vérité, cette nature qu'il y avait dans l'eau était une nouvelle nature ex nihilo. Ça veut dire que, te dit la de Morazaken, et là, je réponds un petit peu à la question de tout à l'heure avec le vent. Je dis, Serge, t'as dit, mais comment s'il y avait le vent, comment on pouvait être emporté? Au début de la nuit, il y avait du vent. Toute la nuit, il y avait du vent. Mais a priori, à la fin de la nuit, il n'y avait plus de vent. Et pourtant, l'eau est restée en muraille, comme pendant la nuit. Tout en restant liquide. Le vent, je peux m'imaginer. Il y a des ouragans en ce moment, là, on entend parler des ouragans, etc.
Un
tourbillon. On sait que le vent, je peux m'imaginer. Je peux imaginer qu'il y a un vent.
C'est un vent d'est.
Hein? Un vent d'est.
Contre le vent.
Bon, ça, je peux comprendre encore. Un vent, je peux m'imaginer. Un vent. Et là.
Deux rangées de vent qui.
Il te rajoute Admorazaké, il te dit, c'est plus simple que ça. C'est-à-dire, le miracle n'est pas seulement le timing, qu'il y a un vent qui arrive au moment où tu as besoin. C'est que, en plus du vent, Dieu a modifié la nature de l'eau à ce moment-là. Cette modification est une création ex nihilo. Jamais dans le monde on a vu de l'eau qui tient comme ça. Donc c'est une création. Sha'are Roma Tavanin Zed Masib Luroar Rakshtema Mayunoken. Ça veut dire que, ce qu'il veut te dire, le Morazaka, il te dit, je ne viens pas ici négliger, je ne viens pas ici minimiser le miracle de la traversée de la mer. C'est un grand miracle. C'est un miracle extraordinaire. Mais ce que je veux te montrer, c'est que, aussi grand que soit le miracle, tu n'enlèveras pas que c'est un miracle dans lequel on n'a fait que transformer yesh miyesh, une existence et une existence. Ça veut dire que c'est de l'eau, ça reste de l'eau. De l'eau qui était là, qui est le soleil, qui est l'équipe, c'est de l'eau. Il n'y a jamais, il n'y a pas quelque chose de nouveau, il n'y a pas eu de la nouvelle matière qui est nuit ici. Il n'y a rien de nouveau ici. Alors, Vechol Sheken, maintenant, on va se poser la question maintenant. Alors, je continue sur la question de, c'est une très bonne question. Par rapport à la création du monde. Est-ce que la création du monde, est-ce que le fait que, quand Dieu crée le monde pour la première fois, ça fait presque 5780 ans, est-ce que cette création est un fait nouveau?
Oui.
Bien sûr, c'est un fait nouveau. Maintenant, tu vas me dire, mais où est le fait nouveau? C'est qu'avant, il n'y avait pas, maintenant, il y a. Et bien sûr, il n'y a pas plus fait nouveau que ça.
Mais on dit qu'il
tu vas dire, oui, mais pareil dans l'eau. Avant, il n'y avait pas de l'eau qui tenait comme une muraille, et maintenant, il y a de l'eau qui tient comme une muraille. Et mais ça n'a rien à voir. Parce que l'eau était déjà là. Le miracle était sur un détail, une caractéristique de l'eau. Qu'au lieu que l'eau soit par la pesanteur et qu'elle tombe, elle n'est pas tombée. Mais l'eau était déjà là. Ça veut dire que c'est sur un détail de l'eau, regarde le vacarme que tu as fait. Sur un détail, l'eau est la même, c'est la même eau. Elle n'a pas bougé. Ça veut dire sur un détail, comme l'eau n'avait plus son apesanteur habituel et qu'elle tenait comme ça, tu dis, ah, c'est un miracle. Un vrai miracle. D'accord?
Un vrai miracle.
Mais tu dis, mais regarde la création du monde. La création du monde, c'est pas que t'as un élément qui est nouveau. C'est quand tu dis, bon, ben, j'avais de la matière, j'en ai fait une autre matière. C'est niveau à 100%. C'est nouveau à 100%. C'est de 0 à 100. Il n'y avait rien avant. Il y avait le néant avant. Donc c'est un chidouche extraordinaire. Pourquoi c'est difficile, ça?
Si tu dis ça, ça veut dire que ton bureau, il a un passé, un présent et un avenir, et qu'il a changé.
C'est une autre question, ça. C'est une autre question, ça. C'est une question, on va arriver à le chapitre suivant. Est-ce que la création du monde est un événement à quelque chose qui a changé quelque chose en Dieu? C'est une autre question. C'est une bonne question. Oui, mais comment il faut expliquer pourquoi. C'est une autre question. Je comprends la question. Mais là déjà, on se remet à l'instant T de la création du monde. Lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde, d'accord? C'est, il crée le monde de 0 à 1. Il n'y avait rien avant. C'est pas de 1 à 1.
C'est
même rien, même 0, je ne peux pas dire. Même 0, je ne peux pas dire. Parce que 0 en mathématiques, c'est quelque chose.
Walou.
Non? 0, c'est pas Walou.
Walou.
0, c'est jamais Walou.
Ben non.
Parce que David, si je te mets 10 0 et je te mets un petit 1 avant.
Ah, là,
c'est plus Walou.
Ça fera une moyenne de 0,0000.
Et tu mets euro plus millions.
Hein?
Quand tu dis si, c'est-à-dire lorsque tu vas le faire ou si c'est
une bonne chose. Mais non, zéro n'existe pas.
Je suis un petit peu étonné parce qu'en fait, on fait focus sur la traversée de la mer.
Oui.
Mais si on revient un petit peu en arrière et on analyse un petit peu tous les. Comment ça s'appelle? Toutes les plaies. Finalement, il y a autant de, entre guillemets, de ex nihilo.
Oui.
On transforme de l'eau en sang.
Mais là,
il y a du H2O et après, il y a une autre formule chimique qui se met en place.
Mais combien de temps a duré le miracle?
Le temps que Dieu avait décidé.
Non.
Qu'à partir du moment où
Non. Quand vous avez un miracle comme ça, il y a deux timings. Il y a le début du miracle et la fin du miracle. Comment ça s'est passé? Dès que Dieu lance le miracle, il fait une petite transformation, switch, 0-1, d'accord? Dès que tu termines le miracle, il refait un autre switch. Maintenant, pendant une semaine, l'eau était du sang. Le miracle n'a pas duré une semaine.
Parce que Pharaon, il a capitulé.
Non, mais je comprends. Non, pas du tout. La plaie dure une semaine.
Parce que l'autre, il était tendu.
Oui, mais je comprends. Mais ma question est comme ça. La plaie a duré une semaine, mais le miracle n'a pas duré une semaine.
Non, mais le miracle.
Le miracle a duré deux fractions de seconde.
Non, mais c'est à quelle échelle?
Mais il a compté. Excusez-moi.
Mais non.
Non, mais c'est un peu le même principe que la muraille d'eau. Vous ouvrez le robinet, vous déclenchez le miracle, mais après le miracle, il faut qu'il continue.
Je vais vous donner un exemple.
Parce que la source d'eau, théoriquement, si elle tombe des montagnes, elle arrive.
J'ai compris votre question. Je vais vous donner un exemple un peu différent, mais c'est pas grave. Imaginez, par exemple, que je vous dis, Dieu a fait un miracle. Il prend un vase, il le jette par terre, il se casse en 1000 morceaux, et une semaine plus tard, ce vase redevient un vase entier. Combien de temps a duré le miracle?
Le temps de tout donner.
Il y a eu deux miracles, oui. Deux fractions de seconde. Première fraction de seconde quand tout a sauté comme ça, on n'a pas compris comment. Deuxième miracle, une semaine plus tard, une fraction de seconde, tout est revenu. On ne sait pas comment.
Mais
pendant toute la semaine, il n'y avait aucun miracle, c'était du verre. C'est tout, du verre, c'est du verre.
Oui. Si je mets de la grenadine dans une bouteille d'eau,
oui.
D'accord, ou je mets une source d'eau qui est un petit ruisseau, j'envoie un colorant, d'accord. Le ruisseau, il va changer de couleur. Maintenant, si j'arrête, il faut que je maintienne de façon continuelle de verser ce colorant pour que
Il vous manque un facteur. Je comprends votre question. Il vous manque un facteur. Est-ce que tout le Nil était rouge?
Comment?
Est-ce que tout le Nil était rouge?
Pas que d'après.
Attendez, vous m'avez laissé finir la question. Est-ce que tout le Nil était rouge ou est-ce que le Nil a gardé sa couleur? Bon. Quand on servait, si c'est un Égyptien qui servait, ça devenait du sang.
Là, ça dépend sur comment.
C'est encore autre chose. Oui, je vous rajoute un facteur encore là.
Voilà, donc c'est même la grêle qui était censée être de la glace, c'était du feu.
Pareil. Alors, c'est une très bonne question, même la grêle.
La grêle est transformée en feu.
Même la grêle.
C'est pas naturel.
C'est un miracle qui va durer combien de temps?
Et de la glace et de...
C'est un miracle qui va durer quelques secondes, le temps que Dieu a dit que maintenant, dorénavant, l'eau et la glace, on fait le shalom. L'eau et le feu, on fait le shalom, on fait la paix. C'est-à-dire que l'eau et le feu ne s'opposent plus. Top, c'est un miracle. Mais c'est fini, maintenant ils ne s'opposent plus. Là, pourquoi on parle beaucoup de traverser de la mer? Parce que c'est un miracle dans lequel Dieu a dit, je ne modifie pas les natures. C'est pas, enfin, je vais aller plus loin. C'est pas dans le sens que, dorénavant, c'est pas grave, l'eau pourra tenir. Il dit, l'eau conserve ses caractéristiques. Elle conserve ses caractéristiques, elle doit tomber. Et pourtant, elle ne tombe pas.
Voilà.
C'est impossible, ça. Tu me dis, comment c'est possible? Si elle conserve ses caractéristiques de tomber, Alors dis-moi, ok, Dieu a modifié que dans la mer rouge, l'eau ne tombe plus. Ça ne me dérange pas. Il a fait un miracle, il a démarré au début de la nuit, à la fin de la nuit, il fait une fraction de seconde.
C'est-à-dire qu'il a maintenu, entre guillemets, hein, façon de parler, il a maintenu ses efforts tout au long.
Exactement. Donc, comme dit Michael, en vérité, comme dit Michael, c'est que forcément, il y a une main. Comment tu parles de la main invisible? Il y a un truc. C'est pas possible quand tu vois un spectacle de magie. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui attrape. C'est pas possible. Il y a un truc. C'est pas possible. Et là, le truc, c'est qui?
C'est Dieu.
C'est HM. Maintenant, ça veut dire, qu'est-ce qu'on a appris avec ce concept? Hein? Quoi? C'est très très dur, je vous ai prévenu.
En fait, c'est très très dur pour une seule raison, à cause du libre arbitre, parce que là.
Non, mais non, mets de côté le libre arbitre.
Mais attends, mais c'est pas possible.
Tu sais quoi, t'as pas le libre arbitre, c'est bon. Non, pour l'instant, t'as pas le libre arbitre. Voilà, c'est bon. C'est une très bonne question, mais.
Non, mais c'est cool, on a pas le libre arbitre, moi,
si ça t'arrange, j'ai que t'as le pour l'instant.
Non, mais c'est la question, c'est que ceux qui sont passés à travers tout ça, qu'est-ce qu'ils ont pu imaginer?
Non, mais les gens qui sont. Après, je vais aller plus loin, je vais vous poser la question encore plus que ça. Je veux dire, finalement, Dieu, quand il va juger à Rochena, qui va juger?
Là, tu peux
il va juger qui?
Lui-même.
Il va se juger.
Ah oui,
je suis quoi? C'est le petit doigt qui va juger le petit doigt. C'est qui va juger qui?
C'est ça l'histoire. Moi, là, dans ce que tu nous expliques, il y a même pas un trou de souris pour.
C'est ma question. C'est ma question. Mais on va step by step. Alors, ce qu'il veut nous montrer à Admor Hazaken ici, on va reprendre l'exemple de la traversée de la mer. Il est évident, et tu as bien dit, c'est une très belle image que tu dis, la main invisible, que si le mur, enfin si l'eau s'érige comme un mur alors qu'elle a conservé toutes ses caractéristiques d'eau et qu'il n'y a pas de mur pour la tenir, c'est qu'il y a forcément une main invisible qui la tient. C'est sûr. Et à l'instant où cette main invisible s'arrêterait, qu'est-ce qui se passerait?
Elle
va tomber. Alors cette main invisible peut être le vent, cette main invisible peut être l'espace, peut être j'en sais rien, peut être ce que tu veux. Mais il y a une main invisible qui l'attrape.
En physique, on appelle ça une force.
Une force, exactement. Il y a une force qui s'exerce dessus. Et à l'instant, c'est très, très bien parler de force aussi, parce que voilà.
Bien sûr, et
à l'instant même où cette force va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Le phénomène s'arrête immédiatement. D'accord? Alors là, pour illustrer ça, l'Admor Hazaken va donner plusieurs exemples. Ok? On va donner un exemple. Il y a un verre vide ici, quelque part. Voilà. Très bien. Allez, là. Alors, regardez. Là, j'ai un verre vide. Si je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi?
Il est attiré par la pesanteur terrestre.
Parce qu'il est attiré par la pesanteur de l'attraction terrestre. Mmh. Bon. Maintenant, si je prends ce verre et je le jette en l'air, qu'est-ce qui va se passer?
Il est resté un instant.
Ah. Il est resté un instant en l'air. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour un certain temps, la force contre force en vérité, parce qu'il y a une force qui attire cet objet vers le sol et il y a ma force qui était plus forte à ce moment-là. Maintenant, ma force était limitée, elle a duré une seconde, d'accord? Donc, tant que ma force était plus forte que cette force, bah, l'objet, il a réussi à contrer l'attraction terrestre. Mmh. Mais dès l'instant où ma force est arrêtée, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est revenu à son origine, à sa source. On est d'accord? C'est la même chose pour l'eau. Cette eau qui se tenait, qui s'érigeait comme une muraille, c'est obligé de dire qu'il y avait une énergie, une force qui était là, une main invisible qui était là, qui la maintient. Et dès l'instant où cette main visible s'arrête, qu'est-ce qui se passe? À l'instant même, ça revient à sa source. Hein, bah, c'est comme ils disent, chasse le naturel. Ça veut dire que tu peux peut-être forcer quelque chose, mais dès que tu arrêtes de forcer, ça revient. Maintenant, on apprend un grand principe ici. C'est que quand tu forces quelque chose, dès l'instant où tu arrêtes de forcer, il revient à son stade initial. Alors, si c'est par exemple de l'eau, que cette eau, normalement, elle est par terre, et moi, je l'érige en muraille. Donc là, effectivement, dès que j'arrête d'exercer une force, il revient à son stade initial, c'est quoi? C'est son stade initial, c'est la pesanteur. Mais si on parlait du monde maintenant, c'est quoi le stade initial du monde?
Il n'y a pas.
Si, il y en a.
Il n'y a pas de stade initial.
Non, il y a un nom. Ce il n'y a pas, il y a un nom.
L'univers.
C'est quoi le stade initial du monde?
C'est
le néant. Le monde, l'univers. L'univers. C'est quoi le stade initial de l'univers? C'est le néant. Donc ça veut dire que il y a une innovation qu'on a fait maintenant. Quoi?
Pourquoi c'est le néant? C'est Akadosh Baruch Hu. On a dit que.
Je comprends.
Mais il n'y avait rien.
Non, mais il n'y avait rien. Je comprends. Mais ce monde n'était pas là.
Il n'y avait rien.
Donc il n'y avait rien. Il y avait. Appelle-le absence d'eux, si tu préfères. Ok.
Donc, Hachem il est là, mais il se cache.
Il se cache, non, mais voilà, mais en tout cas, il y avait l'absence d'eux. Ça veut dire qu'il y a l'absence de monde. Le monde n'était pas là. Donc, le monde n'était pas là. Hachem crée un monde. Ce monde est une innovation. Ça, on va expliquer longuement dans le cours suivant, parce qu'il faut bien s'arrêter dessus. Pour expliquer comment, en vérité, il n'y a aucune logique que le monde tienne. De la même façon qu'il n'y a aucune logique que le verre tient dans l'air, parce qu'il est tombé, de la même façon, il n'y a aucune logique qu'une existence soit existante, soit indépendante. Pour qu'une chose soit existante, il faut qu'il y ait constamment quelqu'un qui la crée, qui la maintient. Et dès l'instant où Dieu arrête d'exercer sa pression, c'est quoi sa pression?
Sa force.
C'est sa force. C'est quoi sa force? C'est la création, sa force créatrice. Qu'est-ce qui se passe? Il revient au néant. Pourquoi il revient au néant? Parce qu'à chaque seconde, le fait même que le monde existe est une innovation. C'est pas possible. Comment tu peux avoir quelque chose qui a une pseudo-indépendance, qui peut avoir une pseudo-indépendance par rapport à Kadosh Baruch Hu? C'est pas possible.
Donc si Dieu se retire, tout s'effondre.
Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas se retirer. Parce que si Dieu se retire, ne serait-ce qu'un instant, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement comme le ballon. Maintenant, c'est un exemple. Alors on va développer longuement l'histoire du ballon. Et je vais m'arrêter là parce que je veux pas. C'est assez complexe aujourd'hui. Mais l'histoire du ballon. Vous comprenez? Imaginez par exemple que je jette le ballon en l'air et le ballon est retombé. Les gens vont dire: ah, Mendy, il a jeté le ballon. Il a jeté le ballon par terre. Mais non. Mais pas du tout. Mendy, il a pas jeté le ballon par terre. Au contraire. Il l'a envoyé en l'air, et tant que sa tenue. Et dès qu'il a arrêté de le tenir, et ben c'est tombé. C'est tout. Là, maintenant, je l'attrape. C'est-à-dire que la force que j'exerce dessus est plus forte que la pesanteur. C'est pour ça que si cet objet faisait 100 kilos, il aurait pas tenu dans ma main. Parce que ma main ne tient pas 100 kilos. C'est tout.
Ça rejoint
la même idée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Imaginez qu'on met dans ma main un objet de 100 kilos. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire: ah, Mendy, il a jeté l'objet. J'ai pas jeté. J'ai essayé de tenir comme j'ai pu, ça a craqué. Ça veut dire qu'il faut constamment exercer une force. Et dès que tu as exercé la force, il n'y a même pas besoin de casser quelque chose. La vraie nature de ce monde, c'est de ne pas exister. Elle ne peut pas exister. Mais ça, il faut qu'on développe encore. Parce que attention, ça, c'est bien développer. Attends, parce qu'on est en train de dire quelque chose de très dur ici. Là. On est en train de dire que la vraie nature de notre monde,
c'est l'absence,
c'est l'inexistence. C'est l'annulation devant Hachem.
C'est l'absence.
Bon, absence, c'est un mot dur, absence. Qu'absence, c'est-à-dire qu'on n'est pas là. Il est là.
C'est ça veut dire qu'on n'est pas là. Normalement.
Je parle de vrai.
C'est uniquement par la volonté d'Akadosh
Baruch Hu. En tout cas, la dépendance. C'est sûr, ça. La dépendance. Or, là, on a un monde. Tu regardes cette bouteille. A priori, elle a une pseudo-indépendance. Elle a des comptes à rendre à personne. Tu regardes. Donc, ça veut dire que tu te dis, il y a une pseudo-indépendance. Comment tu peux avoir ça? C'est un chidouche. C'est une innovation. C'est yesh mi'ayin. C'est une existence qui vient du néant. C'est pas possible. Ça va pas tenir. Donc il y a forcément quelque chose qui la génère à chaque seconde. C'est obligé.
On avait déjà évoqué ça, le fait que par exemple, là, au moment où je parle, c'est l'instant T, il y a la seconde N plus 1, N plus 2, N plus 3.
Oui.
Et en fait, une fois, vous nous avez dit qu'en fait, finalement, chaque seconde qui passe dans le futur, elle se crée à l'instant où elle arrive.
Bien sûr.
Et qu'en fait, finalement, entre guillemets, si on pousse un peu plus les secondes, finalement,
Mais là, si vous voulez, ce qu'on est en train d'expliquer, on a expliqué la logique qu'il y a derrière, ça, la nouveauté du cours d'aujourd'hui. C'est qu'on explique qu'on est obligé, mais on n'a pas fini encore le raisonnement, il faut qu'on développe la semaine prochaine encore. Essayez de méditer un peu cette semaine à ça, après, la semaine prochaine, on va reprendre dessus. Mais l'idée que je vais expliquer, c'est qu'on est obligé de dire, je dis bien obligé de dire, que N plus 1, N plus 2, N plus 3 Dieu renouvellement à chaque seconde.
Voilà,
pourquoi? Parce que si Dieu ne renouvelait pas le monde, c'est pas seulement qu'il a eu envie de le faire. C'est que s'il ne le faisait pas, il n'y aurait pas de N plus 2.
Ouais.
C'est pas que Dieu il a dit, bon, je gère tout, hein. N plus 3, c'est moi qui gère aussi. N plus 4, c'est moi qui gère aussi. Non.
Chaque seconde est...
Il doit être là, comme la force. Dès que tu arrêtes d'exercer la force, ça tombe.
Donc ça veut dire que le futur n'existe pas. Il se fait au moment où on parle à chaque fois. C'est ça?
Pas du tout.
Pourquoi c'est pour
non,
j'ai pas dit ça. Non, alors pardon.
Toute la partition est déjà écrite.
Non, j'ai pas dit ça. Je suis pas rentré dedans. Non, je suis pas rentré dedans.
Non, non. Moi, je suis d'accord avec toi.
Je suis pas rentré dedans encore.
Enfin, t'as compris mon concept.
J'ai pas parlé de ça.
En fait, on parle de l'instant présent.
Je parle de l'instant présent.
Évolue, mais on ne peut pas se projeter ou on peut pas.
Après, je peux pas. Non, mais je comprends. Après,
chaque seconde, Dieu crée.
La vérité, c'est que c'est un sujet complexe. Ça complique beaucoup les choses. C'était tellement plus simple de dire comme les hérétiques. Ça complique beaucoup les choses. Comment tu vas définir le libre arbitre maintenant? Comment tu vas définir le jugement? Comment tu vas définir deux secondes? L'intemporalité d'Akadash Baruch Hu, je sais pas si ça se dit. Ouais. Comment tu peux dire l'intemporalité d'Akadash Baruch Hu?
Non, mais c'est le concept.
Comment tu vas la définir? Comment tu vas dire qu'au Gan Eden, on n'est pas défini par le temps et l'espace? Il y a forcément. Qui l'a créé? S'il l'a créé, c'est qu'il y a un avant et un après. Ça complique tout. Ça complique tout. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire, il a créé, il laisse tourner, quand tu veux, il intervient. Non. Donc là, on te dit qu'il doit constamment être là.
Donc il y a un maintien.
Tout en nous donnant une pseudo-indépendance.
Ouais.
C'est complexe.
Elle est illusoire.
Oui, mais si elle est. Alors, on revient à la question de Michael. Si elle est illusoire, où est le.
Où est Libravé?
Eh, voilà.
Non, mais on le saura la semaine prochaine, ça, non? La semaine d'après.
Après, non, c'est là. Putain, cher Oudemoudin, hein, c'est là, tout est là.
Parce qu'on est.
Voilà. Bon, à méditer. Rabbi Khamel Akashu, Amir Atsakadol, Jean-Baptiste, 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 Jean-